Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Chers auditeurs, j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Jean Pruvot, qui a été inspecteur de l'éducation nationale et ensuite directeur d'école normale, puis d'IUFM. Aujourd'hui, il est professeur à l'université de Cergy-Pontoise. Il y a deux grands noms dans le domaine de, si vous voulez, de la lexicologie, lexicographie, c'est Jean Pruvot et Alain Rey. Et notre ami Jean Pruvot, ce professeur aimé de ses étudiants, eh bien, est l'auteur de 370 publications, ce qui est tout à fait remarquable. J'en cite quelques-unes de mémoire, deux que sais-je, dont les dictionnaires de langue française et les néologismes. Ce dernier livre a obtenu le prix international de linguistique Logos, puis Dictionnaire et nouvelles technologies aux presses universitaires de France en 2000. J'ajoute aussi La dent de lion, La semeuse et le petit Larousse, un livre publié en 2006 chez Ofris, et ensuite un autre livre sur les dictionnaires français, outils d'une langue et d'une culture, avec un prix de l'Académie française, le Nec plus Ultra, ainsi qu'un dictionnaire des citations de la langue française chez Bordas en 2007. Et, ne l'oublions pas, deux livres étonnants, le dictionnaire du Japon en 2007 et celui de la Chine en 2008. Il faut absolument vous saisir de ces derniers ouvrages tout à fait splendides et intéressants. Alors, encore un mot sur Jean Pruvot, seulement un mot hélas, mais il a été le directeur scientifique du Nouveau Littré pour les éditions 2005 et 2006. Depuis 2009, la cerise, si j'ose dire, sur le gâteau, oh, il y a beaucoup de cerises sur les gâteaux de Jean Pruvot, il est directeur éditorial des éditions Honoré Champion et il a publié, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, il a publié en 2010 en tant qu'auteur trois ouvrages dans la collection Champion, les mots consacrés à l'histoire lexicale du vin, livre très intéressant sur lequel j'espère pouvoir revenir, Le loup, et en fait ça fait quatre ouvrages, mais La mer et le chat. Il est aussi, ne l'oublions pas, chroniqueur sur France Inter et de même sur Canal Académie et publie dans la presse L'Est républicain. 2005 à 2007, il a été chroniqueur. Jean Pruvot a été récompensé par un travail extraordinaire. C'est l'homme, nous le connaissons tous comme cela, c'est l'homme des 10 000 dictionnaires. Peut-être même ça a dû dépasser le chiffre de 10 000 maintenant. Jean Pruvot est commandeur de l'Ordre des Palmes académiques, chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Et depuis décembre 2010, il est président de l'Association des Amis de Paul Robert. Et alors, aujourd'hui, il nous revient dans un livre absolument délicieux pour les millions, je ne dis pas d'auditeurs, mais de personnes qui apprécient ces petits animaux si gracieux et si maîtres d'eux-mêmes, c'est-à-dire le chat. Alors, cher Jean Pruvot, dites-moi, pourquoi ce livre sur le chat ?
Alors, d'abord, un mot pour préciser qu'après pareille présentation, j'ai l'impression d'être une statue. On dira simplement que je suis dicopathe, c'est-à-dire que je me passionne pour les dictionnaires. Et ça répond, dans le fond, à la question « Pourquoi le chat ?» Eh bien, parce que j'ai effectivement, ça c'est à mon avis ce qui m'est le plus cher, ce sont ces dictionnaires qui m'entourent. Et avec un certain nombre de mots, comme le chat, ben, j'ai envie de les faire partager, de les ouvrir.
Et si j'ai bien compris, votre chat s'appelle Phonème, non ?
Oui, alors hélas, ce chat est décédé. Mais quand j'étais donc encore jeune professeur, féru de linguistique, puisque bon, c'était ma spécialité, les sciences du langage, j'ai rien trouvé de mieux que d'appeler mon chat Phonème. PHO, un accent grave ME. Et Phonème m'a trahi parce que, en fait, c'était une chatte. Et donc, au premier petit, j'ai découvert que ça, Phonème ne convenait pas parce que c'est masculin. Mais enfin, c'est un joli mot. Et bon. Et donc, je l'ai dédié à Phonème et à mes petits-enfants parce que bon, j'ai des petits-enfants. Et je voulais, effectivement, faire partager ce qu'on trouve comme joyaux, sur un animal comme le chat ou comme le loup ou d'autres thèmes comme le vin. Et le chat, évidemment, est particulièrement attachant parce qu'il a été aussi victime de bien des mauvaises pensées au Moyen-Âge ou encore au XVIIe. Et par conséquent, il y a peut-être un petit effort aussi de réhabilitation.
Et le mot arrive avant même celui de mère.
Oui, alors...
Au point de vue historique.
Oui, tout à fait. En vérité, quand on prend des mots comme le vin, le loup, le chat, ce qui m'a frappé, c'est l'étymologie extrêmement lointaine. On ne sait même plus d'où ça vient. Et dans le fond, quand on dit d'où vient le chat, alors on dira du bas latin, catus, qui est très vite présenté dans tous les dictionnaires comme d'origine incertaine. Et ce côté mystérieux du chat, dès le départ, bon, eh ben, ne manque pas de charme. C'est un peu comme le vin, on peut dire indo-européen, oui, mais on a des racines sémitiques un peu de même sorte. Donc d'où vient le chat ? Eh bien, mystère. Eh bien, c'est bien qu'il y ait un mystère sur l'étymologie. Quand on regarde un chat, d'ailleurs, à quoi rêve un chat, hein ?
Oui, oui, c'est très, très émouvant de voir ce tissage que vous faites autour du chat. Et puis, petit à petit, vous nous le révélez. C'est assez extraordinaire. Et alors, on voit bien les différences entre le chat et le chien.
Oui.
Et notamment dans le monde arabe.
Oui, alors, ce qui est surprenant, effectivement, dans le monde arabe, on doit bon nombre d'informations, d'ailleurs, à Pierre Larousse, qui a aussi bien traité le chat que le chien, parce qu'il avait un chien à moustache dont on a les traces dans le grand dictionnaire universel. Il parle de son chien à moustache. Et il parle, évidemment, des chats. Pas de son chat, mais du chat de... Alors, j'allais dire sa fille, peut-être. En tout cas, de la petite nièce de Madame Larousse, et qui a été adoptée, et qui faisait partie de la famille, et qui l'appelait ma fille, elle les appelait papa et maman, c'est pour ça que je dis peut-être, là j'exagère un peu, mais en tout cas il la considérait comme sa fille. Et évidemment, quand on a affaire à la notion du monde arabe, on est surpris de voir une anecdote qu'évoque donc Larousse, selon laquelle Mahomet avait le chat sur une partie de son manteau, et ne voulant pas réveiller le chat qui dormait, il a découpé doucement la partie sur laquelle se posait le chat. Il est allé faire sa prière, puis il est revenu et le chat lui a montré sa gratitude, l'a remercié, est venu dans le fond se faire caresser, lui montrer son affection. Et dit-on, c'est à partir de ce moment-là que Mahomet a décidé que le chat ne tomberait jamais sur le dos, mais retomberait toujours sur ses pattes.
C'est donc extraordinaire.
C'est une belle histoire, toutes les religions...
C'est une belle histoire qui est vraie, c'est tout à fait vrai dans la réalité, parce que souvent, quand on se trouve, moi-même j'ai une chatte, et lorsqu'elle se trouve sur mes genoux et qu'elle dort, j'éprouve énormément j'ai du scrupule à la réveiller.
Oui,
parce qu'elle est tellement gracieuse, heureuse, elle est dans son nirvana de rêver. Et c'est très étonnant, ça.
Oui, oui.
Donc j'étais très frappé par cette magnifique, disons, ce rappel de Pierre Larousse.
Alors, Larousse aussi, du même coup, donne toute une série d'informations. Parce qu'il y a des dictionnaires qui sont plus riches que d'autres en anecdotes. Et en anecdotes qui sont révélatrices. Enfin, c'est pas simplement le plaisir de faire sourire. Et Larousse, c'est vrai. En tant que bourguignon, aimant sans doute les petites histoires, étant lui-même instituteur, enseignant au départ, et par conséquent très soucieux de montrer les choses sous un jour accessible à tous et agréable, évoque tous les hommes qui ont été fascinés par les chats. Il évoque notamment, j'aime beaucoup ce passage, quand il parle de Fontenelle, qui, enfant, aimant faire les discours, ça lui a réussi, puisque l'académicien a vécu presque jusqu'à 100 ans. Je crois que ce n'est pas tout à fait 100 ans.
Pas tout à fait 100 ans.
Voilà, ouais.
Pas tout à fait 100 ans.
Presque 100 ans. Eh bien, préparer ses discours, il y avait un chat parmi ceux qui étaient dans sa maisonnée, qu'il avait pour préférence. Il le posait sur le fauteuil, il faisait son discours devant le chat. Et quand le chat s'en allait... Il se disait, le discours n'est pas bon.
Donc, c'est extraordinaire. Il ne faut pas oublier que ce livre tout à fait érudit, qui une fois de plus remonte à nos origines, aux origines de notre langue, est préfacé par un dessinateur qui s'appelle Philippe Geluc, et ce qui permet de montrer le chat à la fois l'érudit, à la fois pour un public tout à fait jeune, et encore une fois, nous retrouvons cette jeunesse qui va être passionnée. Vous mettez dans les mains d'un jeune de 15 ans ce livre, il va découvrir véritablement le chat, ça va lui apprendre ce que c'est qu'un chat. Et comme vous avez bien noté dans ce livre tout à fait passionnant, l'auteur qui a le mieux compris les chats, c'est véritablement c'est Colette.
Oui, alors évidemment, il y a des citations de Colette. Il y en a une. Alors, il y a celles qui sont très connues, mais il y en a de temps en temps moins connues. Il y en a une que je trouve délicieuse, je la raconte parce que je ne me souviens plus exactement des mots. Mais c'est une jeune femme qui met un collier, très beau collier de diamants ou de perles, sur sa chatte. Alors, la chatte est là avec ce collier. Donc, elle est ravie. Elle est... Et bien, d'un seul coup, la fenêtre est ouverte. Et le chat s'en va avec le collier. Évidemment, c'est une panique totale. C'est que le collier coûte très cher. Et que va devenir le collier ? Donc ça, c'est délicieux. Alors, vous parliez, alors on dit Geluc ou Geluc. Je l'avais rencontré au lancement du Petit Larousse. Et je lui avais demandé s'il accepterait de faire la préface, puisque dans le fond, j'étais en train d'écrire le chat. Il avait gentiment accepté. Et du coup, ça m'a emballé et embarqué. Du côté, c'est un peu le propre de ces collections. Il y a toujours un fil conducteur qui est l'enquête du XVIe siècle jusqu'à nos jours. Historique, plaisante, rayonnante, avec des choses qu'on trouve nulle part ailleurs. Mais il y a aussi des points particuliers. Et notamment pour le chat, ben là, je me suis dit, il faut faire une histoire du chat dans la bande dessinée. Donc, il y a un chapitre qui est consacré aux différents chats dans la bande dessinée, chronologique. Donc, je dirais que pour les amateurs de bande dessinée, eh bien, je lis simplement le sommaire là, de ce chapitre. Petite chronologie du chat dans la bande dessinée. 1910, Crazy Cat. 1920, Félix the Cat. 1939, Batman et Catwoman. 1940, Tom et Jerry Cat. 1941, Tom Puss. 1941, Black Cat. Bon, il y en a comme ça presque chaque année, il y en a une cinquantaine. Et j'ai eu à cœur de résumer le chat en tant que personnage dans chacune de ces grandes œuvres de la bande dessinée. Donc pour un adolescent qui parfois n'a pas lu tous les classiques, mais a déjà lu pas mal de bandes dessinées, il y a là de bonnes traces. Puis la possibilité de rayonner autour, culturellement aussi. Et puis pour les adultes qui aiment les bandes dessinées, il y a là aussi un bon...
Quelle serait votre propre définition du chat ?
Ah, alors...
Ce qui n'est pas facile.
Pour moi, le chat, c'est le rêve, le mystère... Et alors, je vais répondre en linguiste, c'est un grand polysème. J'ai commencé avec les phonèmes, je vais terminer avec les polysèmes, parce que j'ai le souvenir d'une étudiante absolument rayonnante au moment où elle me rendait un vocabulaire. Je demandais à mes étudiants de rédiger une trentaine de pages ou une vingtaine de pages, un petit dossier sur un vocabulaire. Et elle me tend son dossier avec un chat magnifique, en première de couverture, comme on dit. Et puis il y a marqué « Le chat », donc je suis tout content, je prends cet ouvrage. Et en fait, c'était le chat, clavardage. Et je vois
ça.
Encore ce sourire qu'elle avait, parce que quand je l'ai pris, je dis « Ah, le chat, très intéressant !» Et puis après, une fois arrivé chez moi, c'était très intéressant aussi, mais c'était un autre type
Est-ce
de
que...
chat.
Et alors, il y a cette petite formule, définition dans Claudine, l'une des plus belles descriptions du ronflement sourd, c'est votre livre, hein, et continue par lequel le chat manifeste son contentement, définition du ronron dans le trésor de la langue française de 1971-1994. Et là, je lis, j'écoutais celui-ci grave, celui-là argentin, le double ronron, mystérieux privilège du félin, rumeur d'usine lointaine, bourdonnement de coléoptères, prisonnier, moulin délicat dont le sommeil profond arrête la meule.
Axel, je ne saurais trop vous remercier d'avoir choisi cette citation parce que, évidemment, on donne beaucoup de citations. Et c'est une de mes préférées. Je la trouve extraordinaire pour exprimer ces choses-là. Et ce qui aussi m'a surpris dans cet ouvrage, que j'ignorais parce que, quand on aime les chats, on ne connaît pas forcément leur histoire. Et dans les dictionnaires, c'est de voir, même encore au XVIIIe siècle, le mauvais sort qui leur a été fait. Encore dans l'encyclopédie, on évoque, en disant qu'on n'y croit pas trop, mais que la tête de chat noir réduite en cendres soigne les yeux, par exemple. Tout comme, alors, ça peut m'arriver... Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais mon fils en est déjà atteint. C'est quand on perd ses cheveux. Eh bien, on conseillait que la fiente, on disait fiente, la fiente du chat étalée sur le crâne était très bonne.
Des bénéfices.
Alors, vous imaginez.
Puis alors, Buffon n'y va pas avec le dos de la cuillère. L'animal domestique de l'ordre des carnassiers digitigrades, le chat est un domestique infidèle qu'on ne garde que par nécessité. Oula.
Ah oui, alors là, Buffon...
Il aurait des ennuis avec la SPA,
Là, vraiment, d'ailleurs, je ne suis pas content de Buffon, si on peut dire, parce qu'il a fait beaucoup de mal au chat, parce que ça a été repris dans l'encyclopédie, ça a été repris cette idée. Et en réalité, on sait bien que le chat a une indépendance, c'est certain, mais qu'il aime profondément ses maîtres. Alors, justement, tout à l'heure, on évoquait Larousse. Bien, Larousse a rendu hommage au chat et il a fait une sorte de plaidoyer pro-cato, j'ai presque envie de dire, de Théo, pour le chat, en montrant toutes les qualités. Et il dit notamment que voilà un animal qui est d'une grande discrétion, qui ne demande pas une place particulière, un accoudoir lui suffit, il ne bouge pas, qu'il est autonome. Et puis alors, il y a parfois, bon, alors je ne sais pas si je vais la retrouver de mémoire, mais voilà.
Ça, c'est un vœu pieux, hein, le chat. Un accoudoir lui suffit, c'est la maison qui le prend.
Oui. Et alors, Dubellet, qui célébrait dans une épitaphe le chat, on trouve ceci: il avait cette honnêteté de cacher dessous de la cendre ce qu'il était contraint de rendre, la propreté du chat, qui, dans le fond, est très propre, effectivement.
Puis alors, il faut bien nous quitter. Alors, nous allons nous quitter sur quelques miaou, sur quelques ronronnements, et il y en a de fort jolis, hein. Et je lis aussi ces petits cris, et Émilie, vous donnez à la fin de votre livre, mais revenons au dialogue instructif instauré entre la jeune Émilie et la didactique Madame de Plancy. Émilie, je voudrais bien d'abord savoir ce que veut dire « et ron 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 petit patapon ». Madame de Plancy, mon enfant, les paroles de la plupart de ces refrains ne sont que des syllabes réunies qui indiquent la mesure et la cadence de l'air et qui excitent à la gaieté. Voilà, je m'arrête là, etc. Écoutez, cher Jean Pruvot, ce livre est une véritable encyclopédie du matou, si j'ose
avec
dire.
Avec même des illustrations, d'ailleurs.
À mettre entre toutes les pattes et non pas entre toutes les mains. Un livre délicieux et très sérieusement, je propose, je conseille aux parents et à tous ceux qui aiment ce genre de petit animal d'offrir ce livre, car c'est un livre magique et je dirais à chaque page. Merci Jean Pruvot.
Merci beaucoup.